Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral dans l'émission 100% Foot. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, je suis en compagnie de Patrick, mon binôme de cœur et pas que. Voilà.
Et bonjour à toutes et à tous.
Voilà.
Oui. Bonjour Franck.
Bonjour Patrick. Voilà. Et on va évidemment parler, comme à l'accoutumée, une fois n'est pas coutume. Voilà, de la nationale, c'est-à-dire au bagne, l'Olympique de Marseille, section féminine, qui avait un match au taquet ce vendredi, là. Évidemment, de la Ligue 1 et de l'Olympique de Marseille, section masculine, en ouais, l'occurrence, ouais. Patrick.
Oui.
Donc, on va commencer par parler d'Aubagne, qui a joué vendredi, hein, comme nos féminines et l'Olympique de Marseille également.
Pas voilà. La même heure, mais qui ont
joué. Pas la même heure, mais qui ont joué ce vendredi dernier. Ouais. Ouais. Donc, voilà, sur la nationale, donc Aubagne, justement, faisait un déplacement à Rouen.
Recevez
à Delâtre. Oui. Et je me souviens évidemment une fois de plus que ce stade est d'une qualité médiocre, pour ne pas dire plus. Hein, ouais, on parle de la pelouse du stade de Delâtre, donc d'Aubagne, voilà, qui recevait Rouen. Et sur le match de la 15e journée, c'est donc soldé sur un match nul, un partout. N'oublions pas que Rouen est arrivé en qualité de leader de ce championnat. Ouais. Face à Aubagne, oui. Et ce match-là a été, alors je dirais, il y a eu une expulsion du côté rouennais, et on a joué 70 minutes à peu près, pour parler d'Aubagne, en supériorité numérique, et ça n'a pas suffi pour faire la différence, voilà. Mais le match nul, finalement, est une bonne chose.
Oui, parce que... Comme tu disais, Franck, c'est l'équipe qui était leader, qui est toujours, qui est une équipe qui joue la montée.
Voilà, avec Dijon qui est à côté. Ouais.
Voilà, et Rouen, comme Dijon d'ailleurs, qui sont les deux qui se tirent la bourre pour la montée, sont deux anciennes équipes de Ligue 1. Alors Rouen, c'est plus ancien, Dijon, il y a encore 7-8 ans. Mais Rouen, c'est une équipe, le FC Rouen, qui était un habitué de la Ligue 1 pendant de longues années, de la Ligue 2. Qui a eu, comme beaucoup d'équipes, des problèmes financiers qui l'ont amené à se retrouver en national, et qui est quand même une équipe costaude, qui joue la montée et qui est entraînée par quelqu'un que nos auditeurs connaissent peut-être, Régis Bouard, que vous pouvez voir comme chroniqueur sur l'équipe TV, qui est un entraîneur expérimenté, qui a entraîné en Ligue 2, je crois même qu'il a entraîné un peu en Ligue 1, et... qui est bon entraîneur, costaud, solide, et qui, quand il a eu l'expulsion, il a fermé la boutique. Oui. Donc voilà. Et Aubagne, qui a fait un match courageux, n'est pas arrivé. Ils se sont créés un peu les occasions, mais bon, ils n'ont pas pu. Mais un match nul un partout contre le leader est un bon résultat,
ça,
même à la maison.
Voilà. Oui, tout à fait.
Et cette équipe d'Aubagne... Tu parlais du terrain, alors je ne sais pas si ça joue énormément, mais c'est vrai que la pelouse de Delâtre, c'est pas un billard, comme on dit.
C'est le moins que l'on puisse
et
dire.
Et cette équipe d'Aubagne a de meilleurs résultats à l'extérieur qu'à la maison.
En effet, est-ce qu'on peut apparenter cela
Alors, est-ce que c'est dû à la pelouse? Ça m'étonnerait, peut-être un petit peu, voilà. Mais je pense que c'est une équipe costaud, courageuse, bien organisée, bien structurée, qui à l'extérieur joue en contre et se base sur une solidité défensive et beaucoup de courage.
Une belle assise
de la solidarité et tout. Et à domicile, où il faut faire le jeu, surtout quand tu es amené à jouer 11 contre 10. Et là, ils se sont fait un peu avoir par l'expérience de l'entraîneur. Et une équipe à 10 qui a bien quadrillé, qui a eu peu d'occases, évidemment, ils jouent à 10, mais qui a tenu le match nul, c'est comme ça. C'est une équipe qui joue la montée, on le disait, tu joues la montée en allant prendre des points des fois à l'extérieur.
Il est à noter que Rouen, techniquement, je dirais, était supérieur à Aubagne, même si ils n'ont pas démérité.
Au niveau de l'expérience de gars qui ont plusieurs saisons en Ligue 2, enfin, qui ont de la bouteille, par rapport à Aubagne, qui est plus jeune et plus limité. Mais c'était un bon match. Ils ont été courageux. Ils n'ont pas fait n'importe quoi. Et un match nul contre le leader, c'est plutôt un bon résultat, même à la maison. Donc, ils sont quand même sixième, je crois,
au Bagne. Oui, voilà, sixième avec 21 points. Voilà.
Donc, ils sont bien placés, ils n'ont pas de risque pour la descente. Et ils sont bien calés au milieu, même dans le haut du milieu du tableau.
Bien positionnés parce qu'ils sont, je dirais, pas très très loin des équipes qui nous succèdent
qui
au classement.
Ils ne sont pas loin. À mon avis, sur les matchs que je regarde, comme je l'avais déjà dit chez nos collègues de BFM Marseille, j'ai quand même vu les équipes qui jouaient mieux. Voilà.
Oui.
Mais viser la montée, je pense pas, ils n'en sont pas, ils n'ont pas les éléments, le joueur qui fait la différence, l'attaquant qui te met des buts, fait des trucs comme ça. Ils n'ont pas, c'est une équipe très homogène, très courageuse, bien structurée, où tout le monde travaille.
Et je disais si justement, pour construire le jeu, ils ont d'énormes difficultés, donc ils s'en sortent plutôt mieux en évoluant à l'extérieur.
En évoluant à l'extérieur, en contre, avec. Mais bon, c'est bien, félicitations.
Oui, absolument.
Surtout qu'ils n'hésitent pas à intégrer des jeunes d'Herbel qui viennent de la fusion, qui sont des jeunes qui sont talentueux, parce qu'Herbel a de très belles équipes de jeunes.
Il y a quelques jeunes qui ont intégré le groupe et certains qui étaient sur le banc de touche sur ce match-là.
Qui sont intéressants.
Oui. Donc la prochaine journée, donc la 16e, c'est Saint-Brieuc qui recevra le SCAB, donc au Bagne. Ouais, il est vrai que Saint-Brieuc n'est pas un inconnu. En même temps, nous allons pouvoir les découvrir avec l'Olympique de Marseille.
Oui.
En ce qui concerne les 32e de finale de la Coupe de France. Voilà.
Mais ils seront en 32e. Enfin, pas contre nous. Nous, on va jouer Bourg-Péronas. Eux, ils vont. Et on les avait déjà joués. Pas des très bons souvenirs.
C'est pas des très bons souvenirs.
Il y a un mauvais souvenir contre Saint-Brieuc en Coupe. Mais c'est une équipe solide. Mais au Bagne, il y a les moyens d'aller faire un résultat à l'extérieur et d'aller chercher ne serait-ce qu'un point, ce qui serait une
surtout
bonne chose.
Ils sont en queue de peloton ou avant-dernier, Saint-Brieuc. Au Bagne tirera, je l'espère, aura son épingle du jeu lors de ce déplacement. Voilà. Pour revenir sur, non pas un lapsus, mais sur la rencontre de Coupe de France, le Bourg-en-Bresse recevra l'Olympique de Marseille. Et non pas Saint-Brieuc, qui se déroulera le dimanche 21 décembre.
À Bourg-en-Bresse, évidemment.
À Bourg-en-Bresse.
Mais c'est une équipe de national costaud, que également. Moi j'ai vu une fois, c'était contre Aubagne, je les connais comme ça. Sinon, j'avoue que les noms, je ne connais pas et qu'il n'y a pas grand-chose.
Oui.
Ça sera quand même un match à faire attention parce qu'un petit terrain, 21 décembre, tu risques d'avoir un terrain un peu bourbeux, un peu Bourg-en-Bresse, ce n'est pas la Côte d'Azur. Il faudra le prendre avec sérieux et discipline. Et aller chercher une qualif qui, normalement, mais on sait qu'en Coupe de France, la normalité n'existe pas.
Elle est toute relative, bien entendu.
Il suffit de tomber sur les 10% de fois où elle est petite, ils bouffent les gros. Et un match n'est jamais gagné à l'avance. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de risque, de problème. C'est un tirage. C'est pas non plus une équipe de 3e de National 3 qui est bon.
Oui.
Où il y a quand même une différence de niveau. Le National, c'est quand même des équipes un peu solides.
L'âne du football professionnel.
C'est la limite.
On y est,
D'ailleurs, ils vont devenir la Ligue 3. Donc, c'est une équipe.
Une autre dénomination pour revenir à la
c'est
même.
C'est les équipes dites pro, même s'il n'y a pas beaucoup de pros à l'intérieur. Il y a beaucoup plus de joueurs promotionnels. Mais ça ne sera pas un match commode. Mais Donc, au Bagne vendredi. On vous débriefera ça la semaine prochaine.
Absolument.
Voilà.
Ben voilà, ben, il y a eu évidemment ce vendredi dernier, donc non pas que l'eau olympique de Marseille et Aubagne, mais aussi l'Olympique de Marseille, nos féminines, oui. Nos olympiennes, voilà, qui malheureusement ont échoué, bon, on aurait pu l'imaginer, oui. À domicile, donc à Turquan, en recevant le Paris Saint-Germain 5-1. Alors, très rapidement, on va souligner sur ce match, je pourrais en dire plus, il se trouve que le PSG a marqué le premier but et évidemment l'égalisation marseillaise est arrivée. 5-1, la différence est plus que waouh. Wow. Voilà.
Mais après.
Alors à la 67e minute, Perret, qui est une attaquante de l'Olympique de Marseille, a égalisé. Et puis après la 67e minute, ça a été une avalanche, oui. Et les Parisiennes ont marqué 4 buts pour, oui. Solder le match à 5-1. Quoi.
Oui, oui, elles ont marqué 2 buts dans les dernières minutes, ah, ouais, ouais, donc, ouais. À la 89, je crois, et dans les arrêts de jeu. Et 5-1, c'est très sévère, et ah, l'équipe, oui. A tenu pendant à peu près une bonne heure.
Ah oui, absolument.
Puisque l'égalisation est venue à la 60 et quelques,
ouais,
et
tu
étais à 1 partout. Mmh. Après. Savoir que PSG, c'est une équipe Ligue des Champions, donc elles ont mis de l'intensité.
Ah oui.
Même si en Ligue des Champions, elles ne sont pas flamboyantes, comme il y a 3-4 ans où elles avaient été demi-finalistes.
Mais avec une réussite insolente sur,
oui,
ces...
Ah oui, oui, ils ont eu 3 occasions.
Sur ces 25 dernières minutes.
Voilà.
Ouais.
Tout simplement. Mais c'est quand même un bon résultat. Oui. L'équipe a bien tenu. Et... comme on l'avait déjà dit ces dernières semaines, notre championnat, c'est celui de la deuxième moitié. Si tu lèves les Lyonnaises qui sont 8 fois championnes d'Europe et qui aujourd'hui ont un peu baissé, mais sont toujours dans les 4-5 plus grosses équipes européennes, oui. Dans la hiérarchie. Et les deux parisiennes, PSG et le Paris
et
Football
le Paris,
Club,
ouais.
Il y a quand même un monde entre eux et les autres. Hein. Il y a un peu Fleury qui s'accroche, mais
oui.
Voilà. Et donc, dans ce championnat féminin, notre championnat, c'est celui des autres, quoi. Et celui du maintien, quoi. Et là-dessus, bon, on est relativement correctement placé. Mmh. C'est plutôt que 5-1, c'est vraiment,
oui.
Sévère.
L'addition est plus,
voilà.
Que lourde. Elle est,
voilà. Sur le vu du match, c'est un peu dur. Et je pense que voilà, c'est. Mais tu le vois quand tu as des internationales, des titulaires de l'équipe de France, tu as des internationales étrangères qui sont dans cette équipe, tu vois quand même la différence de niveau. Toi, tu as des bonnes joueuses de première division française.
Il est vrai, Patrick, que pour dégager les points positifs, oui. J'en veux pour preuve Corinne Diacre et, oui. Son sentiment après ce match-là. Oui. Elle explique assez fort justement que, comme tu le disais si bien, que notre équipe a tenu pendant une 60aine de minutes et, voilà. Faisait des choses très intéressantes. Et à la fin, elles ont craqué.
Et pour ce qui est du craquage, quand tu es à 1 partout, tu prends,
ouais.
2-1, tu essaies d'égaliser, tu essaies de revenir, tu te prends un contre 3-1, tu continues à essayer, tu prends à la fin 4-1-5-1 en fin de match, mais tu n'as pas baissé les bras, tu t'es courageusement
totalement.
Battu. Voilà. Donc ça doit être revu positivement, en se rendant compte que pendant plus d'une heure, tu as fait jeu égal avec une équipe qui joue tous les ans la Ligue des Champions. Et qui, bon, même si les Lyonnaises s'en beau dessus pour le titre,
oui.
Est une des deux équipes, allez, trois si on met le Paris Football Club,
ah ouais,
qui est
votre
légèrement
équipe parisienne,
derrière,
évidemment,
voilà.
Ouais, ouais.
C'est une des équipes qui peut jouer le titre, voilà, et qui joue une qualif en Ligue des Champions.
Donc notre, voilà. Position au classement n'est pas compromise, hein, puisque, ouais. L'Olympique de Marseille reste 9e avec 8 points,
ouais.
Malgré la victoire de Lens qui était dernière, qui reste dernière de ce championnat.
Voilà. Oui, qui a battu Saint-Étienne, qui était
avant-dernière. Oui, qui était avant-dernière, évidemment.
Et qui donc l'a rattrapé,
avec 0 points,
voilà. Et donc du coup, se retrouve, on a quand même 4 points d'avance,
oui.
Donc ça laisse une petite marge.
Voilà,
voilà, ouais. C'est... Et il va falloir que les filles se remobilisent, ils prennent quelques,
voilà.
Points. Voilà.
Nous en étions à la 9e journée, donc la prochaine journée, donc la 10e, dimanche 14, donc ce week-end,
oui.
L'OM ira jouer à Nantes. Alors voilà, il faut tenir compte évidemment que 2 jours plus tard, il y aura en Coupe de France concernant les féminines, les 16e de finale de la Coupe de France en ce qui concerne l'Olympique de Marseille, qui est qualifié, hein, oui. Il ne faut pas l'oublier, en sortant justement vainqueur de cette opposition qu'il y a eu lors d'un mini-groupe, etc.
Entre avec Montpellier
avec
et
Montpellier, Toulouse, etc.
Ouais, Montpellier-Toulouse, on est sorti première du groupe. Et donc, on
permet d'accéder à ces 16e de finale.
16e de finale, la Coupe de France. Voilà. Après, l'objectif n'est essayer de faire le mieux possible, mais c'est sûr que tu as de telles équipes, un peu comme un championnat, quand tu vois le PSG, là il s'agit de Lyon, qui est l'équipe qui surdomine, qui n'a que des internationales françaises et étrangères, et qui peut se permettre de faire retourner, qui a un banc avec eux, là aussi que
ça
des internationales.
Ça sera peut-être une possibilité, je dirais, pour les nôtres, de tirer son épingle du jeu.
Voilà, d'apprendre, parce que quand tu joues contre du très haut niveau, tu apprends.
Il faudra voir le tirage à venir. Voilà. On a fait le tour, je dirais, du football, non pas régional, mais de l'Olympique de Marseille féminine et d'Aubagne. Donc voilà, très rapidement, avant d'attaquer la Ligue 1, on va très vite parler, il y a eu le tirage de la Coupe du Monde tantôt. Voilà. Donc parler du groupe I dans lequel fait partie l'équipe de France. Voilà, on ne va pas parler des autres groupes qui, pour certains, seraient relativement meilleurs pour certaines équipes. On ne va pas se plaindre de cela. Donc le groupe de l'équipe de France, évidemment, et on va retrouver le Sénégal. Pas que de bons souvenirs, on se rappelle de cette Coupe
2002,
du Monde 2002,
effectivement,
avec les anciens vainqueurs sortants qui malheureusement avaient échoué face au Sénégal. Donc voilà, la France-Sénégal, la Norvège, ce qui n'est pas un cadeau.
Avec Erling Haaland, évidemment, qui est loin d'être un cadeau.
Entre autres.
Et un barragiste mondial.
L'Irak, Bolivie, le Suriname.
Voilà, ça sera soit le Suriname, soit l'Irak, soit la Bolivie. Donc très probablement, parce que c'est un truc de trois, où il y en a un qui est qualifié. Très probablement à l'expérience, à la Bolivie, qui est un pays sud-américain qui a de l'expérience.
C'est pas le sourcil.
Le Suriname. C'est ce qu'on appelle la CONCACAF, dans lequel il y a trois qualifiés d'office, États-Unis, Mexique, Canada. Or, comme par hasard, c'est toujours eux qui restent les places quand il y a les qualifs. Et là, du coup, on se retrouve avec Curaçao et Haïti qui sont qualifiés. Et on a la Jamaïque dans l'autre barrage, d'ailleurs.
L'autre barrage, c'est
et c'est les équipes qui, normalement, ne passent jamais, qui, donc, n'ont pas du tout l'expérience. Ouais. Donc, ça serait très surprenant que l'équipe d'Irak, un pays qui était encore en guerre, en guerre civile il y a quelques années, et qui essaie de se reconstruire tant bien que mal, et le Suriname, où il y a en fait des joueurs de seconde division hollandaise, parce que le Suriname est une ancienne colonie hollandaise, et donc il y a des joueurs qui tous jouent aux Pays-Bas, pratiquement, et on a double nationalité, mais c'est des joueurs qui n'ont aucune chance de jouer en équipe des Pays-Bas, qui ont donc choisi le Suriname. Voilà, comme dans l'équipe d'Haïti, on a un joueur qu'on connaît en France, Jean-Ritner Bellegarde, qui joue à Strasbourg, qui joue en Première Ligue actuellement, qui est un bon joueur, mais qui a eu quelques sélections en espoir français, mais qui est d'origine haïtienne, donc il a rejoint l'équipe d'Haïti, et tant mieux pour lui, et il est qualifié, et c'est très bien.
Ah oui,
c'est vrai que Suriname, ça sera très probablement la Bolivie.
Oui, je pense également, ce tirage.
Le tirage a un avantage, c'est si vous avez regardé un peu les commentaires dans les... Sur le journal L'Équipe ou à l'équipe TV ou même à Monte Carlo, vous avez vu que l'avantage, c'est géographique. Tu joues sur New York, Boston, Philadelphie.
Il est vrai.
Et même si tu te qualifies en étant premier de ton groupe, d'où l'intérêt d'être premier, tu resteras pour les 16e, 8e et quart sur Boston, New York, Philadelphie. Ça te permet d'avoir une canne de base, c'est pas loin, tu as une heure d'avion entre chaque ville.
Voilà, pour ne pas parler à l'américaine, de faire du cost-to-cost, rester sur la même...
C'est d'éviter... Le seul problème serait l'éventuelle demi-finale, mais là on va très loin, où ça serait à Dallas, au Texas.
Oui.
Mais tu as des équipes, l'Espagne par exemple, qui vont jouer entre le Mexique et Dallas, Houston, aux au Texas. Donc il y a un problème, un problème de distance avec des 6 heures d'avion et compagnie. Et il y a un problème de chaleur. Il fait quand même beaucoup plus chaud au Texas et au Mexique que sur la côte est américaine.
D'autant plus sur la période de la Coupe du Monde.
Sur la période qui est juin-juillet. Ouais. Voilà. Donc le choix de Deschamps, on se rappelle, c'était soit la côte ouest, c'est-à-dire le tirage Vancouver-Seattle qui te donnait les huitièmes, les quarts à Los Angeles-San Francisco. Voilà, la côte, pour pas être trop loin, côte ouest, soit la côte est. C'est maritime, il y a un peu plus d'air.
C'est vrai qu'au-delà de la logistique... Voilà.
Des déplacements, il y a le côté climatique.
Ah, oui.
On l'a vu avec la Coupe du Monde et des clubs l'été dernier, des matchs par 40 degrés.
Ça a été problématique.
Ouais, c'est rude. Quoi. C'est rude et ça laisse des traces. Alors après, le Sénégal, on sait qu'on connaît tout le monde et ils nous connaissent. Oui. Et ça va faire un match compliqué. Parce
véritablement.
Que je pense qu'eux, ils joueront leur Coupe du Monde sur ce match-là. Parce que ça sera... S'ils nous battent, s'ils battent la France... Ça sera symbolique, ça sera. Ils auront réussi leur Coupe du Monde.
Ça reste leur souvenir en tout cas.
Parce qu'en plus, ils nous battent, ils prennent 3 points, ils sont pratiquement sûrs d'être au moins dans les meilleurs 3e. Et la Norvège, l'équipe d'Allan, de Sortlot, de Garde et compagnie.
Également.
C'est costaud.
Finalement, ce n'est pas un tirage si simple que cela.
Voilà, mais après, des tirages simples, il n'y en a pas tellement.
Non, et... plus favorable peut-être, diraient certains, pour d'autres.
Mais oui, parce que tu as des têtes de série, c'est les 3 organisateurs. Alors le Mexique, c'est costaud, mais c'est vrai que le Canada ou les États-Unis ne sont pas des équipes sensationnelles. Donc ils se retrouvent de série. Si tu veux, les mecs qui vont tomber contre eux, ça leur laisse une marge, parce que c'est pas des équipes... Je suis persuadé, nous on dit ça, j'ai écouté un peu les commentaires en France, je suis sûr qu'en Norvège et au Sénégal, ils rigolent pas, quoi. Ils auraient préféré éviter l'équipe de France.
Certainement.
Voilà.
Fallait-il prendre un gros, comme on dit, entre guillemets.
Oui, tu étais sûr, vu les... On avait le chapeau 2, on était chapeau 1, évidemment, tête de série. Mais tu avais des pays, tu avais la Croatie, tu avais le Maroc, tu avais les équipes comme ça qui étaient très, très compliquées. Le seul mauvais truc, c'est qu'on a tiré la Norvège, qui était dans le chapeau 3.
Effectivement.
Qui était peut-être une des meilleures équipes du chapeau 3. Mais par exemple, ils ont mis un chapeau 4, les barragistes européens, où tu peux avoir la Turquie, la Pologne, l'Italie, des pays, je veux dire, c'est le mec qui va se les payer, ou le Danemark, c'est pas des cadeaux. Hein. Les mecs qui vont se prendre ça, ça va pas être commode. Hein.
Voilà.
Et c'est les équipes chapeau 4. Hein.
Effectivement.
Donc, verra bien. On verra bien, on en reparlera un peu.
Du monde. Mais voilà. On va attaquer le débriefing majeur de la 15e journée de Ligue 1, hein, puisque ce week-end, forcément, ça n'a pas été le meilleur week-end que nous ayons passé. Voilà, très très rapidement pour revenir sur les résultats. Brest avait battu Monaco 1-0. Évidemment, Lille nous a battu 1-0. Et tu nous expliqueras et on en parlera ensemble de quelle manière. Voilà, samedi, Nantes, malheureusement, pour nous, classement, a perdu 1-2 face à Lens. Toulouse a battu Strasbourg, un peu étonnant de la part d'un Européen, 1-0. PSG en a planté 5 face à Rennes. Dimanche, Nice a perdu, ça va pas mieux pour Nice, évidemment, mais ils n'ont pas démérité, on va dire ça, malgré leur carton rouge qu'ils ont pris assez rapidement face à Angers, 0-1. Auxerre a battu 3-1 Metz. Le Havre et le Paris FC ont fait match nul 0-0. Et pour terminer cette journée dimanche, Lorient a battu Lyon 1-0.
Voilà.
Alors là aussi, un match pour un Européen qui est évidemment plus qu'en déroute.
Oui.
Ça me fait pas plaisir de le dire, mais oui, un peu quand même.
Oui, c'est-à-dire, on se rend compte en fait, Franck, que hormis le PSG, qui, malgré les blessés, a un effectif tellement important que quand tu vois que leur remplaçant, c'est les internationaux, en français, à Iremrit international.
On voit malgré tout une jeunesse assez
intéressante, mais tu as surtout parmi les remplaçants. Zahir Emery, oui. Lucas Hernandez, Zabarny, le capitaine, l'international ukrainien.
Rien que cela.
Voilà, ça c'est des remplaçants. Quoi. Barcola, qui est un titulaire en équipe de France, il n'est pas titulaire au PSG. Quoi.
Oui.
S'il joue parce que Désiré Doué est blessé. Mais voilà, donc tu as une équipe, Gonzalo Ramos, international portugais, il est remplaçant aussi. Voilà. Donc tu as une équipe...
Ils ont de quoi faire pour agrandir une bande de touches.
Qui permet de faire tourner... Oui. Leur nombre de blessures peut expliquer qu'ils aient déjà deux défaites en championnat contre nous et à Monaco il y a 15 jours. 1-0 les deux fois, où à un moment donné, les jeunes, c'est bien, ils ont de la qualité, ils sont bons, mais à un moment donné, ils n'ont pas 50-60 matchs internationaux, 50 matchs de Ligue des Champions derrière. C'est des jeunes internationaux, 18, mais bon...
leurs absences peuvent être dommageables.
Parce que des fois, on entend des trucs. Donc, tu mets un jeune de 18 ans dans une équipe au costaud, il fait le 11e, il va se hisser au niveau, il va faire un bon match. Tu mets 4-5 jeunes.
Compliqué de multiplier la jeunesse sur une bande de touches.
C'est beaucoup plus compliqué. Aussi, voilà. Et quand tu dois faire des remplacements, tu fais rentrer des gamins de 18 ans, c'est toujours beaucoup plus dur.
Malgré ce, comme tu dis, beaucoup d'internationaux sur le banc parisien.
Voilà, et donc c'est une équipe costaude, mais on voit que l'OM, Monaco, Lyon, Strasbourg, Lille également, ont eu des problèmes ces derniers temps. Parce que la Ligue des Champions ou l'Europa League, c'est du haut niveau.
Ah, ça range, ça impacte, forcément.
Et quand tu as la malchance, comme l'OM, mais pas que l'OM, même si je n'aime pas trop Lyon, ils ont beaucoup de blessés eux aussi, des joueurs importants, tu as du mal à faire tourner. Et donc, en championnat, moi j'ai vu le match contre Lorient dimanche soir. Lorient est courageux, a fait son match, ils sont bien battus, ils ont quelques joueurs tout à fait de qualité. Donc un ancien jeune de l'OM que j'ai connu quand il était en Gambardella à l'OM, Laurent Abergel, qui est le capitaine de Lorient, qui est un bon joueur de Ligue 1, qui n'a pas percé à l'OM parce qu'à l'époque c'était compliqué, puis même maintenant c'est difficile.
Non, mais c'est un garçon avec beaucoup de qualité.
Oui, beaucoup de qualité.
Beaucoup d'aplomb.
Un gros bosseur et un gros travailleur, et qui était le capitaine de Lorient, qui a fait un bon match d'ailleurs.
En effet.
Et ils ont gagné au courage. Mais c'est vrai que Lyon, il te manque Fofana, il te manque Nuama.
Oui.
Il te manque.
Au niveau offensif,
voilà,
il
leur
manquait
Tesman, le milieu de terrain américain. Voilà. Il te manque du monde, et à un moment donné, tes joueurs, j'anticipe ce qu'on va dire sur l'OM.
Et oui. Parce que finalement, sans parler de l'OM, on y pense tellement. Que...
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Moi, quand on en parle en rigolant, on discute entre potes, après avoir vu le match, tu tires la tronche de même pas de l'eau.
Il y avait de quoi ce vendredi soir.
Ah ouais, vendredi. Et copain m'a demandé, il m'a dit alors qu'est-ce que t'en penses. J'ai dit c'est con qu'on n'ait pas joué le match. Il m'a dit on a
c'est
joué.
C'est le moins que l'on puisse dire.
On a pas joué.
Non, on n'a pas joué le match.
Le match, on l'a jamais commencé. On l'a pas joué. On prend un but rapidement.
Alors,
sur une...
Justement, Patrick, j'ai besoin de tes lumières.
Oui.
À quoi peut-on expliquer justement ce comportement et qui a occasionné un non-match de notre part, au-delà du but lillois, ça c'est malheureusement pas anecdotique puisque c'est le résultat du match, mais on peut parler alors de composition d'équipe. On démarre le match, on va dire dans le jargon, pas que dans le jargon, à 5 défenseurs, un peu inhabituel dans notre démarche, avec la présence de certains joueurs qui n'étaient pas défensivement. Alors au milieu, il manquait du monde.
Il manquait Hoiberg essentiellement.
Ça. On n'a pas su compenser cela.
Alors, sur le fait de débuter, parce qu'après, moi, ce qui me dérange dans les commentaires de foot, quel que soit le journal, la radio, la télé et tout, c'est que on a c'est tout blanc, tout noir, c'est pas vrai.
Oui. Non.
Tu vas à Lille, qui est quatrième, qui est à 3 points de l'OM, s'ils te battent, ils te rattrapent.
Justement.
Donc ils se retrouvent 3e ex aequo, même si on est devant au goal average, qui est une équipe qui l'année passée était en 8e de finale de la Ligue des Champions.
Il ne faut pas l'oublier.
Voilà. Qui cette année est en Europa League avec de bonnes chances de qualification. Pour les 16e de finale. Hein. Donc voilà, c'est une équipe costaud avec des joueurs d'expérience. On ne va pas citer les Giroud, les Benjamin André,
entre autres,
les Aïssa Mendy, etc.
Benjamin André est toujours capable de prouesse footballistique.
Toujours des bons joueurs.
Ah, ouais, ouais, ouais.
Et donc, que tu vas avec une défense à 3, avec des pistons qui sont Bruyère à droite et Emerson qui est capable de jouer piston à gauche, il était international italien, piston gauche, hein, ne l'oublions pas.
Oui.
Donc, c'est pas du tout débile. Tiens,
même
tu viens...
si Bruyère, on pouvait le prendre comme attaquant
oui,
à la base.
Oui, on peut le prendre comme attaquant, mais tu joues sur une équipe, mais il sait quand même défendre et il travaille, Bruyère. Donc, il peut jouer piston.
On peut le dire,
il
c'est
joue
un
même
travail
des
important
fois,
qu'il
il
fait.
Il joue même certains matchs arrière droit.
Ben oui, en l'absence de Murillo, c'est
oui,
ce que...
C'est lui le remplaçant.
C'est lui...
Que tu joues en défense à 3 avec des pistons et en espérant te dire tu laisses venir et tu vas jouer les contres, moi ça ne me choque pas,
alors,
je dirais même c'est assez intelligent.
À 3, avec, je suis assez d'accord sur le principe de base. Oui. Maintenant, avec les deux pistons également qui auraient pu offensivement comme défensivement justement compenser, même si Lille n'a pas été une équipe vraiment très, très forte sur ce match-là.
Oui.
Mais nous n'avons pas su, je dirais, compenser le manque de création dont on a
voilà.
été victime.
Alors,
et les maladresses de nos défenseurs à l'occurrence.
Alors moi, je pense que l'idée de départ,
ouais.
parce qu'il faut arrêter avec le De Zerbi bashing. Je dis pas qu'il fait pas d'erreur, De Zerbi.
Bah, on en fait tous.
Tout le monde en fait. Mais il en fait même pas mal en ce moment. Disons qu'il a pas de réussite.
Malheureusement.
Mais commencer avec une défense à 3 pour asseoir ta défense et jouer le contre, c'était pas débile.
Ça se conçoit.
Dans l'idée. Problème, il faut pas prendre un but au bout de 10 minutes. Parce qu'à ce moment-là... Et le reproche qu'on peut lui faire, c'est de ne pas avoir
réagi, justement.
Un peu tardivement, à la 60 et quelquième. C'est-à-dire que tu n'as pas sorti ton troisième défenseur pour faire rentrer un milieu de plus.
Voilà. Ça nous faisait cruellement défaut, le voyant en première mi-temps.
Oui, parce qu'en première mi-temps, Lille jouait avec un milieu renforcé. Alors c'est vrai que tu avais André qui est un joueur de grande expérience, qui commande, qui... Et donc tu t'es retrouvé en difficulté et tu étais mangé parce que tu jouais à deux, toi. Ah, tu avais 2 milieux.
On n'a pas employé Angel Gomez face à lui, justement, je dirais, pour...
Et donc, tu as été en difficulté. L'absence de Højbjerg, qui est un patron...
C'est ce qu'il faut souligner.
...a quand même pesé.
Oui.
Højbjerg était absent parce qu'il fatigue, parce qu'il y avait les matchs de l'équipe de... Pour ceux qui suivent un peu le foot, il a joué les matchs de barrage pour les qualifs
avec
la Coupe du Monde.
Ouais.
Voilà, ils se sont fait battre pendant les arrêts de jeu en Écosse. Donc, il a joué 2 fois 98 minutes en 4 jours.
Ouais.
Et mec, il revient, il avait joué contre Toulouse et tu es peut-être un peu fatigué à un moment donné.
En effet.
Donc... Il avait des douleurs, il a préféré le laisser sur le banc pour éviter une blessure, ce qui n'est pas stupide.
Mais
le reproche qu'on peut faire, c'est quand tu prends un but à la 10e minute,
voilà, la réaction,
et on va revenir sur le but, d'attendre la 60 et quelquième pour faire des changements.
Oui, c'est plus que regrettable.
Voilà, de sortir un défenseur, parce que tu continues à défendre à 3 plus 2 pistons devant une équipe qui jouait derrière et qui jouait les contres. Surtout que leur attaquant marocain, Hamza Ingaman, qui a failli venir à l'OM, que l'OM voulait acheter, d'ailleurs, qui est un bon joueur, s'est blessé et est sorti à la 27 ou 28e.
C'est ça,
Et c'est Giroud qui l'a remplacé.
C'est ça,
Donc Giroud, c'est pas du tout le même style de joueur, rapide, puissant, qui prend la profondeur et qui multiplie les appels. C'est beaucoup plus un attaquant de surface. Donc, le mec qui te fait des appels, que tu as 3 défenseurs pour le cadrer, pour être dans sa zone.
C'est une autre défense, évidemment, qui
c'est
qui
plus
doit être
le
mis
même
en place.
Topo avec Giroud.
C'est ça.
Donc, Peut-être le reproche, c'est de dire tu aurais dû sortir un de tes trois centraux avant.
Très retardataire à voilà. Ce niveau-là, on n'a pas réagi.
Tu le sens à la 60 et quelquième. Et c'est là que le côté physique joue, c'est-à-dire que
toujours.
Tu as une équipe où... Bon, moi, j'ai vu les notes. Alors, c'est des fois sévère parce que Aubameyang a eu une mauvaise note.
Oui. Alors, pour revenir à la base défensif, oui. je parlerai peut-être d'individualités ouais. qui m'ont pas marqué, justement, c'est par leur absence, je dirais, d'implication ou peut-être ouais. des problèmes physiques, à ouais. guerre dans l'occurrence.
Oui.
Voilà, Pavard qui n'a pas été non plus très, très, je dirais, sur son côté droit, ça n'a pas été super non plus, et au milieu de l'axe, pardon.
Voilà, on en revient à ce qu'on disait il y a deux secondes.
Ouais.
Pavard, il joue stopper droit ouais, dans bah, une ouais. défense à trois. Dans la mesure où Higaman, un garçon qui multiplie les appels,
voilà.
est ailier à Ralston, entre autres, et tout à Lille, je crois que c'est l'autre, c'est comme il s'appelle le sud-américain là,
oui, mince alors
oui, qui est très très un dribbleur et tout
qui était percutant voilà, justement voilà, donc c'était un souci majeur
voilà ces mecs-là ont reculé puisqu'ils menaient au score et Higaman s'est blessé, il est sorti à la 27e
ouais,
et Giroud n'a pas ouais. du tout le même genre de joueur. Était-ce nécessaire de laisser Pavard un stopper droit,
on en revient à cela
où il avait pas de mec au marquage.
Ben non, c'était pas là qu'il fallait le positionner voilà, à ce moment-là.
Voilà, et le piston, c'était Wea, qui était plus attaquant que défenseur oui. à ce moment-là. Donc, est-ce que c'était pas une bonne idée à la demi-heure de faire un changement et de remplacer, de faire entrer un milieu de plus pour essayer de garder plus le
parce
ballon
que les pistons n'ont pas su compenser le manque du milieu voilà. de terrain.
Et oui, parce qu'au milieu,
qui était insuffisant,
jouais, ouais. tu jouais à 2 contre 3.
Voilà, avec Vermeeren qui a quand même fait un bon match.
Qui a fait un bon match, oui. Mais c'est vrai que tu étais en galère. Et donc, il y a eu peut-être une erreur là-dessus. Parce que quand tu as fait ton changement, on était à la 60 et quelquième, Aubameyang, il était mort.
Il était bouilli.
Voilà, à 36 ans, tu ne peux pas lui demander de jouer tous les matchs, de multiplier les appels, surtout que le pauvre, il a pas eu une bonne note, mais c'est normal.
Ben, c'est-à-dire qu'il n'a pas touché un ballon.
Voilà, il n'a pas eu un ballon propre. Il était dans l'entonnoir avec deux centraux et le numéro 6, là, qui est André,
oui,
hein,
oui, oui.
qui était devant, qui coupait les trajectoires. Il a eu très peu de ballons.
Et avec personne à côté de lui, justement, voilà. pour l'épauler. Voilà. Par Greenwood qui essayait de son côté de surnager, mais quelques
voilà,
actions individuelles.
Ça a été compliqué. Mm-hmm. Et Aubameyang, on le savait en début de saison, il a 36 ans, tu ne peux pas lui demander, surtout qu'il est international gabonais.
Eh oui, ça va être alors, un
donc,
gros souci, ça. Je veux
pendant
dire,
la trêve, il avait joué en équipe du Gabon. Ils ont joué la qualif, ils se sont fait éliminer en demi-finale pour la qualif, la Coupe du Monde.
Oui, mais il y a la CAN qui va
être
problématique. Il y a la CAN
qui arrive, où il va jouer ouais. tous les matchs, parce mm-hmm. que c'est le leader, c'est lui qui joue tous les matchs, il joue à fond. Et donc, à un moment donné, à 36 ans, ben, le mec, il est un peu... Le problème, c'est que Gouiri a été opéré de l'épaule, il est absent.
Ouais, il serait de retour, a priori, pour janvier.
Pour le mois de janvier, voilà, mais on n'est pas encore certain. Il faut peut-être mieux lui donner 15 jours de rab.
Et faut-il plutôt qu'il soit apte à reprendre.
Voilà, qu'il se fasse mal en sortant d'une opération à l'épaule et qu'il reparte pour 3 mois. Quoi. Voilà. Et donc, c'est seul remplaçant en attaque, puisqu'il y a Ahmed Traoré Junior, point d'interrogation.
Le point d'interrogation majeur de cette attaque inexistante au niveau du banc de touche.
Oui, qui est blessé depuis la fin août.
À part notre jeunesse.
Voilà, et donc tu as Robinho Vaz, 18 ans, et Mmadi, 17 ans et demi.
En effet.
Mmadi, il a fait 4 apparitions en Ligue 1, mais des apparitions 10 minutes en fin de match. Là aussi, il est rentré 10 minutes en fin de match.
On les envoie,
tu les envoies un peu à l'abattoir,
oui.
hein, disons-le.
Et j'ai failli le dire.
Et tu le vois quand tu as des défenseurs centraux expérimentés. En l'occurrence, il y avait Mendy, le défenseur central titulaire de l'équipe d'Algérie, 32 ans. Vieux joueur expérimenté qui a joué à Reims, mais qui a joué au FC Séville
aussi,
et tout.
Ouais.
C'est du costaud qui joue à Lille maintenant, expérimenté, qui a des dizaines de matchs européens et tout, qui est, je crois, 60 sélections en équipe d'Algérie, ouais. un truc comme ça, ou 70. Ben, le mec, il a le jeune Vince, il
C'était au pas métier, un cadeau voilà, de les faire rentrer voilà. si jeunes en alors, fin de.
Voilà, et dans les jeunes, tu les envoies, mais c'est vrai que l'absence de Gouiri, de Traoré ouais, pèse ouais. très lourd. Parce que tu n'as pas un joueur de qualité que tu fais rentrer à demi-heure de la fin et qui a du jus et qui a de l'expérience.
On peut parler de notre trio offensif voilà. de base qui, malheureusement...
Non, qui ne tourne pas. Quoi. Qui tourne pas.
Et n'a pas lieu de repos, surtout voilà. en ce moment. Quoi.
Voilà, et Peck Shao, tu le fais jouer piston, puisqu'il était piston gauche.
Un autre point voilà. d'interrogation, j'ai l'impression qu'il est plus piston qu'attaquant, oui, comme Kélier, devrait
voilà,
l'être.
Il travaille beaucoup. Ah ouais. Greenwood, on sait que c'est un joueur par à-coup. Alors, c'est sûr que Greenwood, c'est celui qui a du talent. Quoi.
Ah oui. Voilà. Ah oui.
Il a fait une action, mais alors énorme, où le gardien
il a tout fait, tout seul.
A fait une très belle arrêt. Il a deux très belles actions.
C'est ça.
Mais c'est des coups. Voilà. Sur une action, il part
seul. Deux
coups
formidables qu'il voilà. a su concrétiser, mais on ne pouvait pas tout le temps
disons qu'il
attendre.
Il a été excellent, mais c'est le gardien qui fait des beaux arrêts. Voilà.
Ouais, ouais.
Après, le gardien, il est payé pour ça, et puis c'est un bon gardien. Hein.
On peut le souligner.
Voilà, c'est un international turc, il est costaud, c'est un bon gardien, il a fait deux beaux arrêts, mais après, c'était des coups. Et ce qui, moi, m'a énervé, c'est que tu n'as pas eu une structure collective en attaque qui te fait te créer les occasions.
Du milieu et de nos pistons, justement, aux phases offensives, on n'a pas su développer quoi que ce soit au niveau action de jeu.
Voilà, alors... on peut dire que Weah a fait un bon match correct,
mais
il a fait son match.
Toujours,
mais après, comme il est piston, il n'arrête pas d'enchaîner les allers-retours.
C'est ça.
Donc c'est vrai qu'en fin de match en particulier, tu as des fois du mal à avoir du jus. Il aurait fallu que tu puisses changer. Et tu as eu un problème de... d'énergie.
Ah oui.
Et un banc qui t'amène, des mecs qui t'amènent
C'est ça. À part notre jeunesse que tu as citée, pour, je dirais, renforcer la phase offensive, ça n'a pas pu être le cas.
Voilà. Et après, c'est vrai que tu prends un but un peu énervant parce que c'est... je regardais la télé, donc Ligue 1+, la chaîne de la Ligue, et tu as Genesio après qui expliquait... C'est Genesio ou c'est... je crois que c'est un joueur de Lille qui le disait, qu'ils avaient repéré, ils avaient donc visionné le match, ils avaient repéré l'idée de dire on envoie des grands ballons en cloche de notre propre camp.
Oui, interprété par un joueur, mais l'idée était de Genesio, bien entendu.
Voilà, et qui fait qu'il y a... Et entre autres, leur milieu, Haraldsson et puis Ethan Mbappé, le frère de Kylian, qui plongeait pour essayer de surprendre l'attaquant. Il appelait, il faisait... il était repéré, il était chargé.
Oui.
Et c'était des joueurs du milieu qui transperçaient. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et
malheureusement, il a fallu une occasion pour Ethan
Mbappé. Une occasion, un but. On
parlerait peut-être de sortie, je ne vais pas l'accabler, un peu hasardeuse, mais là on peut parler aussi
de Rulli,
du collectif des défenseurs également, il leur manque d'implication.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait le mec il arrive lancé du milieu, donc
ça part de là.
Quand tu arrives lancé, tu arrives en plein pot alors que l'autre il faut qu'il se retourne et qu'il démarre. Ce qui veut dire que tu prends un petit temps d'avance. Et ce qui, à mon avis, pour avoir revisionné après, ce qui fait la différence, c'est le contrôle.
Une mauvaise appréciation de notre gardien de but
Rulli
sur le contrôle.
Rulli pense qu'il va faire un contrôle qu'on appelle le long, c'est-à-dire qu'il va contrôler le ballon et l'envoyer 3-4 mètres devant. Et donc, il sort pour anticiper.
D'où sa sortie trop anticipée.
Et en fait, le mec, il fait un contrôle dans les pieds. Il contrôle le ballon, il le garde dans les pieds. Le frère Mbappé, il est techniquement très fort.
Sur le coup.
Et donc, il contrôle, ce qui lui permet d'avoir le ballon et d'avoir le temps de... Parce que comme il arrive de l'arrière, il n'a pas un défenseur dessus. Ils sont tous à 2-3 mètres.
Eh oui.
d'avoir le temps de voir Rouli et de crochet, enfin, il ne crochette pas, mais il contrôle et il frappe intérieur du pied. Oui. Enfin, il le trompe et Rouli qui est sorti, ben, il est battu. Et donc, il ne met pas une frappe forte. Hein. Il envoie le ballon.
Il n'était pas nécessaire.
Voilà.
Nos défenseurs n'ont pas pu se saisir du moment. Quoi.
Et dans ce cadre-là, s'il fait un contrôle un peu approximatif ou que le ballon va 2-3 mètres, Rouli, il est dessus.
Il est clair que là-dessus, ça n'a pas été le cas,
malheureusement. Sauf que ça n'a pas été le cas, et donc il n'est pas dessus. Donc après, le mec, il met un petit coup de patte tranquille. Mm-hmm. Le ballon, il va mourir dans tes buts, parce qu'il n'y a plus de mec sur la ligne. Mm-hmm. Sauf que, comme la défense a été prise par le joueur qui arrivait lancé de l'arrière, Rouli compense cette erreur. Voilà. Et en fait, là...
Effectivement, ça a déstructuré l'ensemble de l'équipe avec ce but, justement, qui est arrivé trop tôt.
Et moi, je ne suis pas d'accord pour mettre tout sur le dos de Rouli.
Non.
Parce qu'il prend une décision qui s'avère pas bonne parce que le mec, il réussit son contrôle.
D'autant plus quand il est gardien de but, c'est compliqué.
On se rappelle, on l'a vu avec le gardien du PSG, Chevalier, qui s'est fait massacrer. Sur une action, Coupe d'Europe, où il sort et il s'arrête parce qu'il voit qu'il est court. Et du coup, le mec le fait marron.
Oui, je me souviens de cette action de jeu.
Et donc, quand tu es sorti, tu es sorti, tu vas au bout.
Et derrière ça, il avait entendu parler du pays.
Il a entendu parler du pays, surtout que contre Toulouse, sur la touche longue qui amène l'égalisation toulousaine, là aussi, il sort. Mmh. Il sort, il part un peu à l'aventure. Et s'il avait pu avoir le ballon, malheureusement...
Donc c'est vrai que l'attitude d'un dernier rempart est toujours, je dirais...
Voilà, tu restes sur ta ligne, on te dit pourquoi tu n'es pas sorti.
C'est sûr.
Tu sors et tu ne peux pas intercepter contre Toulouse. C'est un joueur Toulouse qui met une tête, qui le lobe, et la tête, elle tombe sur un autre Toulousain qui la met au fond.
On en revient à ce match-là précédent, qui malheureusement, on a été égalisé
à 90 plus 2. C'est pareil, c'est-à-dire que tu prends une décision, tu as un dixième de seconde, et puis des fois elle est bonne, des fois elle ne marche pas. On dit souvent qu'il y a des séries, et là ça fait 2-3 fois qu'il se fait avoir sur des trucs où il est malheureux. Mais la défense est prise... Comme ce n'est pas la première fois, sur une balle en profondeur où tes défenseurs sont mal positionnés, tu mets pas hors jeu,
c'est ça.
Mais tu es quand même haut, ce qui fait qu'il y a... Parce qu'en fait, l'attaquant, qui était Ingaman, le Marocain, il surveillait son défenseur qui était sur lui. Je ne me rappelle plus qui c'était. Et donc, il s'est débrouillé pour ne pas être hors jeu.
Justement, pour détourner la ligne.
Et de toute façon, il fait pas action de jeu. Ouais. Et le frère Mbappé, il arrive lancé. Et il n'est pas hors jeu. Malheureusement, on a revu les images, il n'est pas hors jeu. Parce qu'il arrive lancé dans le sens du ballon. Alors que toi, tu défends dos au but. Quoi. Voilà.
Donc, l'idée là-dessus était de...
Voilà. Et donc, en fait, Genesio, il a dit après, mais ils avaient travaillé sur cette faiblesse défensive, qui est une faiblesse que tu as depuis même la saison dernière.
Qui est récurrente à présent.
Parce que tu joues haut et que tu as le ballon. Et on a eu souvent des problèmes. Pardon. Quand tu perds le ballon, il y a des situations où ta défense est haute et tu t'exposes.
Ça l'est. Voilà. Maintenant, tout en jouant haut, on n'a pas su exploiter les ballons récupérés et on n'a pas su en faire quoi que ce soit de prolixe.
Voilà. Après, le problème pour moi, il est là. Tu prends un but à la dixième, il te reste 80 minutes et les arrêts de jeu pour égaliser.
Alors, on en revient au changement tardif. C'est vrai qu'au milieu de terrain, malheureusement, parents pauvres et au niveau de l'animation offensive, ils n'ont pas pu bénéficier de quoi que ce soit, de création de jeu.
Oui. C'est là que tu vois qu'il te manque un truc depuis le mois d'août, depuis le mercato, numéro 10.
C'est évident parce que Vermeeren, nous l'avons vu justement dans plusieurs multifonctions, mais il n'est pas numéro 10.
Oui, c'est un relayeur, c'est comme O'Reilly, le Danois.
Joueur très intelligent,
même Højbjerg, c'est des joueurs capables de faire des passes décisives, de donner de bons ballons. mais c'est pas le milieu qui met le pied, qui distribue. Voilà, c'est voilà. Pas le style.
Et ça, et... sans vouloir le prendre à partie, c'est pas d'Angel Gomez qu'on va trouver voilà. Cette solution-là. Quoi.
L'idée, c'était Angel Gomez en début de saison. Ça n'a pas marché en 10. Voilà. Mm-hmm. Il est passé. Voilà.
Et sur un couloir, c'est pareil. Quoi. Voilà.
Et on rappelle que l'année dernière, De Zerbi avait voulu. Le joueur argentin qui appartient à l'Inter Milan, qui avait été prêté, je ne me rappelle plus son nom, et qui s'était fait les croisés en octobre avec l'équipe d'Argentine, et qui donc n'a pas joué. Très très prometteur, mais qui malheureusement s'était fait les croisés fin septembre, et puis on n'a plus revu de la saison.
Derrière ça, on n'a pas su rebondir pour l'acquisition d'un autre joueur.
D'un joueur de ce style. Et donc, en fait, tu te rends compte que tu n'as pas de créateur de jeu. Ouais.
Et ça nous fait cruellement défaut.
Voilà, comme j'ai regardé donc Lyon contre Lorient, ils ont perdu, d'accord.
Mais à part Durasso au milieu...
C'est un peu Tolisso.
Tolisso, le pauvre.
C'est lui qui distribue.
Désolé pour la confuse.
Et tu as des joueurs comme ça qui sont capables de faire des passes, de donner des ballons. Et toi, tu as des joueurs qui sont...
Ce joueur-là, nous ne l'avons pas dans l'effectif.
Et comme Lille, après le but, ils ont reculé. Ouais. Ils t'ont attendu derrière. Et puis, c'est les combattants qui travaillent et tout, qui font le job. Mmh. Et ben, tu t'es heurté à un mur. Et ce qui, moi, m'a le plus gêné, c'est que tu as, en fait, les deux grosses occasions que tu as en deuxième mi-temps, ces deux actions individuelles
de Greenwood. De la part de Greenwood, voilà. Évidemment.
Alors... Là, tu as un joueur hors classe, comme on dit, mais qui a tendance, quand il voit que ça ne va pas, à y aller tout seul. Quoi. Oui. Et tu ne peux pas à chaque fois passer quatre mecs balle au pied. Et voilà. Et quand le goal, il te fait les arrêts, il te fait les arrêts. C'est comme
oui,
ça.
Même s'il n'a pas été qualifié, il aurait marqué, on l'aurait qualifié nettement plus fort, noté de la meilleure des manières. Ouais. Mais des deux côtés, que ce soit Paxão ou Greenwood, il fait un travail défensif assez important malgré
tout. Voilà, oui. Paxão, il a beaucoup défendu, beaucoup travaillé. Ce qui peut expliquer, à mon avis, à Paxão, mais... que quand il arrive à un contre un, il a du mal à passer balle au pied en dribble. Il passe beaucoup en vitesse, il passe pas souvent en dribble.
Ouais, pour finir l'action, c'est compliqué.
Voilà, ça, je l'ai remarqué, y compris surtout au Vélodrome, parce que comme je suis en virage, tu vois les liés sur le côté.
Tu vois arriver de face.
Et tu le vois. Et c'est vrai qu'il passe beaucoup plus en vitesse. Et en crochet, il passe pas tellement en dribble, au sens... un Cherki, un Désiré Doué.
C'est vrai que
dribbleur.
Son homologue sur le côté opposé.
Greenwood, c'est l'inverse, c'est un dribbleur. Et donc, par contre, il travaille énormément, il fait beaucoup de boulot. Et il faut qu'il ait beaucoup une situation où il se retrouve en situation de frappe, parce qu'il est droitier, il joue ailier gauche, mais il est droitier. Il rentre et il frappe du droit, comme le faisait Robben Ribéry. Il rentre et il frappe sur le pied extérieur. Mmh. Arjen Robben, le Hollandais qui joue au Bayern, et Ribéry jouent ensemble au Bayern. Voilà, ou Florian Thauvin, pour prendre plus récent.
Ouais, qui flambe pas mal avec Lens à présent.
Et là, quand tu regardes le match, il n'a pas eu d'occasion de réussir, parce qu'il avait toujours deux mecs, une deuxième lame qui l'empêchait de...
Il est vrai qu'il n'avait pas de soutien,
il manquait de soutien.
Et pour jouer dans l'axe, c'était aussi compliqué. Aubameyang était complètement seul.
Et les rares tirs qu'il a tentés, il a été contré. Voilà. Donc il n'a pas eu...
On n'a pas su exploiter quoi que ce soit à ce niveau-là, au niveau offensif.
Moi, je pense, je le disais tout à l'heure, que pour Paxão comme pour Aubameyang, il y a un problème de lassitude physique. Paxão, il a été blessé en juin quand il est arrivé.
On peut le dire ainsi.
Donc, il n'a pas eu de préparation. Ouais. Il a été blessé deux mois. Il a repris fin août, début septembre.
Et une accumulation de matchs qui va se poursuivre.
Comme son remplaçant est blessé depuis fin août, il joue tous les matchs. Sauf les 10 dernières minutes où tu fais rentrer Vass ou Mmadi.
Cela ne suffit pas.
C'est pas assez. Et donc, il commence à accuser de la fatigue. Aubameyang, avec l'âge et les matchs internationaux avec le Gabon.
Il y a de quoi.
Lui aussi, il est bouilli. Et ça, tu l'as payé parce qu'en deuxième mi-temps, il aurait fallu faire rentrer du sang frais pour mettre des brèches dans la défense lilloise, et tu n'es pas arrivé à le faire.
Donc voilà, ben, écoute, on va peut-être clôturer sur cette journée, puisque elle n'en appellera d'autres. Alors on va parler de l'actualité, nous sommes mardi, donc ce soir, en Ligue des Champions, l'Union Saint-Gilloise reçoit l'Olympique de Marseille, et on est bien, je dirais, on a hâte d'en découdre, et en espérant que ce match-là sera sur la pelouse d'Anderlecht, donc les autres de la capitale belge.
Saint-Gilles, c'est un club de la banlieue de Bruxelles.
De la banlieue, et Anderlecht qui a son stade.
Ils jouent sur le stade d'Anderlecht parce que leur stade à eux n'est pas homologué par l'UEFA.
Au niveau de l'UEFA.
Voilà. Donc, par contre, ils le connaissent parce que ça fait 3-4 ans qu'ils jouent des matchs de Coupe d'Europe, d'Europa League et tout.
Évident que
ils jouent sur ce terrain-là.
Sur ce stade d'Anderlecht, Donc effectivement, il y a un bon contingent de Marseillais, même des Belges, un bon millier, voire plus, qui seront présents justement ce soir. Et voilà, nous serons présents devant notre écran, de tout cœur, avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'attente.
Alors si on fait un non-match comme à Lille...
Ça ne sera pas le cas.
J'espère que ça ne sera pas le cas, on va s'en prendre une.
Ah, au pétard.
Si par contre on joue comme on a joué contre Newcastle, où on a fait, où c'est quand même une grosse équipe de première ligue.
Ça serait plutôt de cet acabit,
comme bon on avait joué à Nice, où on avait été très bon.
Aussi.
C'est une équipe costaud, sans grande star.
Très homogène.
Très, très homogène.
Avec un système de jeu qui ne varie pas.
Qui va nous poser problème, parce qu'ils ont une défense à 3 et un milieu à 5.
Et un milieu à 4 ou à 5.
5 avec les deux pistons à droite et à gauche.
Qui font les efforts.
Et c'est gros travailleurs, c'est combatif, ça ferme tout. Et c'est une équipe qui a 6 points autant que nous en Ligue des Champions, donc qui n'est pas ridicule.
Effectivement. Et on est juste, devant par rapport au Goal Average. Mais on va voir ça ce soir.
Mais voilà, et donc ça va être compliqué eux aussi, ils jouent leur qualif.
Bah, évidemment.
Parce qu'ils gagnent, ils ont de fortes chances d'être qualifiés.
Et voilà, si on prend 9 points, ça y est, on commence à avoir fleuré bon.
Alors est-ce qu'on aura l'OM comme contre Newcastle ou comme contre Nice ou Paris Saint-Germain début de saison, l'Ajax et compagnie? Ou est-ce qu'on aura l'OM comme vendredi dernier à Lille où tu te demandes ce que tu fais?
Dirons-nous que les matchs suivent et ne se ressemblent pas?
Oui, tu peux avoir. Après, moi, l'impression que j'ai un peu en revoyant les matchs et en me rappelant comment ça s'est passé, si tu marques le premier, tu recules un peu, tu joues les contres et tu vas les obliger à sortir.
Oui. Quelque chose d'assez agréable. Est-on capable de gérer une situation de ce type?
Voilà, mais je pense que oui. Après, c'est une question... parce que on parlait du match de Lille, Mbappé, le frère, Ethan. Il réussit son contrôle, il se retrouve seul face au gardien, il arrive à marquer. Voilà, il joue bien le coup, il joue très bien le coup. Toi, tu le joues mal, mais lui, il le joue bien. Et toi, c'est la défense, c'est le gardien qui joue mal deux. Mais lui, il joue très bien le coup. Il a marqué pas mal de buts, il fait pas mal de passes décisives en fin de match depuis le début de la saison. C'est un garçon qui, techniquement, il tient la route. Il marque, Première occasion, au fond. Si tu y rates, si tu contres, si tu fais, tu sais pas comment
ça va. On va voir ce soir déjà quelle est la défense que nous allons opposer à l'Union Saint-Gilloise.
Je lisais ce matin l'équipe, je vois une proposition de défense à 3 avec Mourinho,
Aguerd de Mourinho
et Emerson à stopper gauche.
Est-ce qu'Aguerd ça va? Il a récupéré
Je serais très surpris que De Zerbi, ils mettent pas Pavard et Balerdi, à moins qu'il y ait des blessures.
Je suis étonné que les deux ne soient pas sur
Parce qu'ils ne sont pas en grandeur. Alors, dans la Provence, ils sont donnés dans l'équipe type. Ils sont... Pavard, il n'est peut-être pas très bien, parce que dans une saison, tu as des hauts, des bas.
C'est pas la période faste actuellement.
Quand même, c'est un champion du monde, finaliste de la Ligue des Champions l'année dernière avec l'Inter Milan.
Il saura se surpasser s'il est présent sur ce match-là.
C'est un joueur d'expérience. Surtout que Murillo, c'est quand même un latéral et qui revient de blessure.
Effectivement, les gros efforts de Pisson, si on doit lui demander cela ce soir, ça va être compliqué.
C'est plutôt Wea qui va le faire.
Je pense.
Donc je pense plutôt, moi, vers l'équipe en défense à 4, avec 3 milieux que propose la Provence, que contre l'équipe en 3-4-1-2.
Ouais.
Non,
l'équipe à 4 derrière me semble plus
légitime. Plus légitime, oui. Parce qu'en face, ils jouent avec deux attaquants.
Oui.
Ils jouent pas avec deux ailiers.
Pas oublier, voilà, leur 4 ou avec piston, au milieu.
C'est, à mon avis, ça serait un peu risqué de mettre 3 centraux. Sachant qu'ils n'ont qu'une pointe, quoi.
Justement, voilà, mais il y a les couloirs évidemment qu'il va falloir gérer.
Oui, voilà. Parce qu'en général, d'après ce qu'on a pu voir de l'Union Saint-Gilloise, ils ont des mecs qui plongent soit les latéraux, soit un des deux attaquants qui part sur le côté. Enfin, ils essaient de partir dans ce qu'on appelle là où il y a des trous, quoi.
Et oui, voilà. Donc évidemment, voilà, au niveau des couloirs, voilà, il va falloir justement bloquer cela.
Tu joues en défense à 3 avec des pistons, ils essaient de partir dans le dos du piston sur l'aile où le mec il est monté. Donc là, tu prends un risque parce que tu écartes ton stopper pour aller au marquage.
Et
tu te retrouves avec un seul mec dans l'axe. Donc ça peut être, voilà. Donc il joue un peu comme ça.
Ça peut être à double tranchant, évidemment. Voilà. Il faut voir les circonstances du match et des jeux.
Donc je pense que De Zerbi, parce que si j'en crois l'équipe de ce matin, c'est d'après l'entraînement d'hier.
Forcément.
Les chasubles. Est-ce qu'il n'aurait pas lancé une fausse piste pour tromper l'adversaire?
Ça, c'est le truc habituel, justement.
Voilà. Ça
même pour nos propres joueurs.
Ça m'étonnerait qu'à moitié, quoi. Ouais. Voilà. Mais bon, nous verrons bien ce soir. On vous débriefera ça la semaine prochaine.
Oui.
Voilà. Et on vous débriefera le match contre Monaco.
Et en même temps, n'oublions pas l'enchaînement des matchs, justement.
Oui.
La 16e journée, nous recevons Monaco dimanche 14, quoi.
Eh oui, dimanche 14 à 21h, le match du dimanche soir.
Donc l'enchaînement après la Coupe d'Europe, Ligue des Champions de ce soir.
Monaco qui joue ce soir sur son terrain
aussi,
contre
Galatasaray.
Galatasaray,
c'est pas un cadeau non plus.
C'est pas un cadeau non plus. Et Monaco qui a des problèmes d'entraîneur, puisque...
Oui, il est un peu sur la sellette, si on peut dire cela comme ça.
Voilà. Et puisqu'ils ont viré leur entraîneur à Dieter. Et le remplaçant Pocognoli, qui était d'ailleurs l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise.
En effet, il faut le dire.
La saison, il y a encore un début d'année.
C'est juste une petite parenthèse qui n'a peut-être pas lieu d'être.
Voilà, mais
il est vrai, il faut se souvenir, tu t'en rappelles forcément, tu as dû connaître ce match-là, en tout cas, le voir peut-être. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que l'Union Saint-Gilloise, justement, ça a été le premier match européen de l'Olympique de Marseille.
Alors là, c'était en 1962.
C'est ça.
Et
La Coupe des Villes de Foire, je crois, c'était en 62-63.
C'était l'équivalent de l'Europa League aujourd'hui.
C'est ça,
puisqu'il y avait la Ligue des Champions, mais que pour les champions. Pour les secondes, troisièmes, il y avait ce qu'on appelait la Coupe des Villes de Foix. C'était les grandes villes.
Bon, ce fut quand même non pas un souvenir saisissant.
On avait été éliminés, d'ailleurs.
Voilà.
C'était pas... Mais moi, j'avais 10 ans, donc je ne l'avais pas vu. Mais oui, effectivement, c'est très, très ancien. Il n'y a pas de quoi avoir des... À voir, dire on les a joués, on a perdu.
C'est ce soir qu'ils vont nous régaler.
Beaucoup trop vieux. Voilà, en espérant que ce soir ça se passera
absolument
bien.
Patrick.
Et on vous débriefera ça la semaine prochaine.
Oui.
Et on vous souhaite d'ici là.
À tous et à tous.
Voilà, en dehors du football, il y a une vie, une excellente semaine.
Mais enfin, allez loin quand même.
Oui, allez loin quand même.
Allez, merci à toutes et à tous.
Au revoir.